Bonjour à chacun, à ceux qui ont l'habitude de venir dans ce lieu et à ceux que c'est peut-être la première fois ou qui viennent de temps en temps. Bonjour à chacun. Ce matin, merci Elvire, hein, ça m'ouvre la porte. Ce matin, je vais d'abord commencer à vous parler de nouvelles outres et de changement. C'est ce que Jésus a essayé de nous dire ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts de faire les choses autrement? Depuis quelques mois, le Collège d'Anciens vous parle d'une nouvelle vision concernant notre communauté. Celle-ci, elle est issue du travail du groupe Stratégie, que le Collège d'Anciens a validé cette nouvelle vision. D'ailleurs, vous pouvez la découvrir en en-tête chaque fois que vous lisez les annonces que vous recevez par mail. Je vais vous la lire. L'oratoire est un espace de vie porté par une communauté multigénérationnelle attachée à la présence de Dieu. Attaché à la présence de Dieu et ancré dans Genève et dans les nations au travers de différentes œuvres. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela ce matin? Parce que dans le Collège d'Anciens, nous avons la conviction que nous vivons dans l'histoire de notre monde un moment particulier, où l'esprit nous demande de discerner les temps dans lesquels nous vivons. En parlant de nouvelles outres, Jésus en fait la référence. Nous trouvons celle-ci dans les trois évangiles, celle de Luc, de Marc et de Matthieu. Je vais vous lire dans Matthieu 9, verset 17. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du mou qui fermente, sinon le vin nouveau les fait éclater. Il se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans les outres neuves, ainsi le vin et les outres se conservent. C'est la réponse que Jésus donne aux disciples de Jean-Baptiste qui viennent le trouver et qui lui demandent « Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas ?» Il leur répondit « Comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé, alors là, ils jeûneront. » En parlant des nouvelles outres, il dit aussi autre chose, c'est juste avant, « Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant. » Dans ces deux versets qui se suivent, Jésus fait référence à un temps nouveau à cette période. Et ce qui vient ne peut pas être mis dans un ancien type de contenant ou être mis sur un tissu ancien. C'est-à-dire, ce qui vient dans le temps où Jésus l'a dit ne peut pas être vécu dans une ancienne manière de fonctionner. Aujourd'hui, nous le savons. Jusqu'à Jean-Baptiste, nous avons affaire à la loi et aux prophètes, à l'Ancien Testament. Et avec Jésus, nous entrons dans un nouveau temps, dans le Nouveau Testament. si je rembobine un tout petit peu, je vous posais la question donc, pourquoi est-ce que c'est important de vous parler ce matin de la nouvelle vision de l'oratoire et du terme « nouvel outre » ? C'est parce que les prophètes, de par le monde, dans les maisons de prière, partagent dans les communautés, dans les gens qui les écoutent, que nous entrons dans un temps nouveau. Est-ce que, Cathy, tu veux bien venir ? Cathy a entendu et vécu la conférence des nations. Elle va nous dire un petit peu ce qu'elle a compris.
Alors en fait, ça a même commencé avant. Avant chaque Noël, je prends toujours 3 jours avec le Seigneur pour faire un peu le bilan de l'année et puis pour commencer la nouvelle année. Et mon thème, le Seigneur me donne toujours un thème, et là mon thème c'était de profondeur en profondeur. La profondeur appelle la profondeur. On trouve ça dans le psaume 46. Et je n'ai pas tout de suite compris au départ, mais j'ai réalisé que le Seigneur me faisait aller beaucoup plus profondément. Vous savez qu'on peut vivre à la superficialité de notre esprit. On peut vivre notre vie dans la superficialité. Et là, ça m'avait déjà bien secoué, parce que le Seigneur me disait, il faut descendre, il faut aller plus profond. Et dans cette conférence, c'est une conférence qui est organisée par Watchman for the Nation, c'est David Damian. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais lui, il fait un travail dans les nations depuis des années, en Chine, aussi dans plein de choses au niveau de la réconciliation. Et là, dans cette conférence, il était en lien avec Mike Bickle de la maison de prière de Kansas City. Et là, j'ai trouvé vraiment extraordinaire de voir ce gars, Mike Bickle, qui en fait avait été interpellé par le Seigneur. Eux, ils ont une maison de prière où ils prient 24 heures sur 24 depuis 20 ans. Vous voyez un peu, hein, ils ont 500 staff, enfin c'est extraordinaire leur chose, mais le Seigneur l'a fait comme remettre quelque chose sur l'alignement. Et en fait c'est ce qu'on a vécu exactement ce matin avec la louange. Moi j'aime quand le Seigneur fait d'abord la chose qu'il veut dire dans la louange, puis après il y a le message qui vient pour confirmer. Et en fait c'est exactement là ce qui s'est passé. En fait dans cette conférence, Mike Bickle disait qu'on peut utiliser Jésus comme un moyen. Le moyen pour avoir le salut, pour être guéri, pour être apaisé à l'intérieur, recevoir la paix, pour que nos besoins soient comblés. Et c'est juste, hein, Jésus veut nous donner tout ça. Mais il y a quelque chose de plus. C'est quand on vient exactement dans ce qu'on a vécu à la louange, où on vient vers Jésus comme l'ami de l'époux, où on est là et on veut écouter sa voix et d'entendre sa voix. Ça c'est Jean-Baptiste qui le dit dans 1 Jean 29, qu'en fait quand on entend sa voix, ça nous réjouit. Et là on va plus dans la profondeur, on n'est plus dans la superficialité. Là, c'est lui qui est la personne au centre et tout le reste est beaucoup moins important. Et c'est arrivé à donner son affection pour qui il est. Un peu, on doit apprendre, il y a des choses nouvelles qu'on doit apprendre, on doit aller plus dans la profondeur. Et j'étais tellement touchée par Mike Bickle qui ont cette maison de prière où ils prient depuis 20 ans, ils font depuis 20 ans de la louange, de l'adoration, et même à eux, le Seigneur leur dit de revenir, de se réaligner, de mettre Jésus au centre. Et dans cette conférence, il y avait aussi toutes les nations, il y avait beaucoup de Chinois, parce que le Seigneur est en train de faire aussi un truc pas possible en Chine, et il les ramène tous à cet amour, à cette intimité avec l'époux. Et on a besoin de ça. Alors là, dans cette conférence, ce n'était pas des ministères qui s'associaient, mais c'était des personnes qui connectaient cœur à cœur. Et là, je crois que c'est aussi ce que le Seigneur est en train de faire. Ce n'est pas des réseaux, des systèmes qui se mettent ensemble, mais c'est des gens, c'est des relations cœur à cœur. Et c'est aussi ça qui m'a vraiment frappé dans ce... Je crois que c'est tout, hein, ça va ? Sinon,
je vais continuer. Je devrais peut-être te laisser le micro. Blaise a été avec Mireille à France en Feu et il va nous communiquer ce qu'il a entendu et vécu là-bas.
Merci, on a été à France en Feu, à Paris. Là, c'est... Alors, j'ai été surpris par l'enthousiasme et la ferveur de cette équipe. Il y a 300, 400 personnes, je ne sais pas exactement, 400, hein, 350 personnes. Ça, c'était vraiment feu. Et puis, l'invité principal était Anne Griffith, qui est une prophète d'Écosse. Et puis, ça nous arrange parce qu'elle parle français, donc ça aide quand même. Alors elle est arrivée et puis elle a dit « Le temps est court ». Ça on l'entend souvent, mais elle a commencé comme ça. « Le temps est court ». Bon. Et puis elle a dit « Maintenant, on n'a plus le temps. Et dans les églises maintenant, tout ce qui porte du fruit nécessite que l'on continue à œuvrer pour ce qui porte du fruit. Ce qui ne porte pas de fruit, même si c'est bon, on abandonne, on n'a plus le temps. » On se disait, mais dis donc, là, ça chauffe, hein, ça va. Et puis, elle a continué, et puis elle a dit, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. On ne sait pas ce que c'est, mais vous savez que Dieu avise toujours ses prophètes avant un changement, ou quand il annonce quelque chose, il le fait toujours à l'intermédiaire de ses prophètes. Et les prophètes à travers le monde entier, que ce soit aux États-Unis, que ce soit Anne Griffith ici ou ailleurs, je ne connais pas tout, eh bien, Dieu est en train d'annoncer que quelque chose de nouveau, de totalement nouveau, va nous arriver. Alors, si quelqu'un vous dit « je sais ce que c'est », ne le croyez pas, parce qu'il ne sait pas encore. Parce que le Seigneur est en train de nous préparer pour aller plus loin. Elle nous a fait toute une vision que je ne vais pas vous dire, mais c'était le but. C'était le fait de nous préparer pour aller plus loin, pour que quand ce nouveau sera là, nous soyons capables de l'appréhender et qu'il ne nous fasse pas peur. Et nous prions aussi pour que nous ayons un esprit de discernement pour savoir que ce que c'est bien de Dieu, que ça ne vient pas du monde adverse qui est toujours en train d'imiter. Mais vraiment, le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau. Nous ne savons pas encore ce que c'est, mais il nous prépare et il prépare son Église.
Merci. Le 19 janvier, le Collège ministériel de l'Église évangélique libre a convoqué les conseils de paroisse de ces églises. Et les sujets principaux qui ont été abordés, c'était les cinq ministères, l'Église apostolique, les anciens, les ministères locaux, les ministères extra-locaux. Un réalignement, une nouvelle façon de s'interroger sur ce que nous vivons en tant qu'Église. Nous-mêmes, dans notre temps de prière du jeudi soir, les versets de Matthieu 9 nous ont interpellés. Alors nous croyons que cette parole, elle est pour nous. Elle est pour nous et pour la saison à venir. Il est vrai que les termes apôtre, ministère, Église apostolique sont des mots déjà entendus lorsque nous avons accepté Pierre Kanga comme couverture apostolique. C'est un chemin qui a déjà été ouvert de ce sens-là. Nous vous donnerons plus de détails sur notre réflexion, sur nos démarches lors de notre prochaine assemblée d'église qui sera le 13 mars. Notez-le quelque part dans vos agendas. C'est important parce que nous voulons obéir à ce que Dieu nous dit. Nous croyons que notre communauté est appelée à glisser vers un changement important. C'est aussi ce qui ressort du travail qui a été fait dans le groupe de stratégie. Nous avons réfléchi à des nouvelles manières de faire, à nous réaligner sur ce que Dieu dit. La vision que je vous ai lue au début de la prédication, les différents témoignages que vous avez entendus, nous poussent à rentrer dans cette nouvelle outre et à nous diriger peut-être vers une église qui se veut plutôt apostolique. Alors là, je vais donner une petite explication concernant le mot apostolique. Des mots savants. On a déjà eu des enseignements là-dessus, mais il y a des temps où il faut que ça pénètre, que ça pénètre, que ça pénètre toujours plus profondément pour qu'on comprenne le sens. L'Église primitive avait une image très différente de l'Église par rapport à celle que nous avons aujourd'hui. La plupart d'entre nous supposons qu'une église, c'est d'avoir une congrégation, comme nous, et un pasteur à sa tête, avec des membres qui sont laïcs et qui sont en principe sous formation biblique. Le pasteur est là pour s'occuper des paroissiens, c'est ce qu'on appelle une église de modèle pastoral. Et c'est ce que nous vivons ici. L'église primitive, elle, n'avait pas de pasteur générique. Elle avait 5 dons distincts, 5 dons ou 5 ministères pour la diriger. Elle avait donc des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et des docteurs. Leur ministère avait aussi un but différent. Leur but commun était d'être là pour que ceux qui appartiennent à Dieu, les disciples, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Vous trouverez ceci dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 4, dès le verset 11. L'Église primitive ne considérait pas ses membres comme des brebis à nourrir et à soigner à tout jamais. Je suis un peu dure là. Hein? Elle considérait celle-ci, c'est-à-dire tous ses membres, comme des saints appelés au ministère, et le travail des dirigeants était de les équiper. Comme vous pouvez le constater, après des siècles et des siècles, presque toutes les églises, en tout cas celles que je connais, ont perdu ce modèle. Dans les témoignages que vous avez entendus ce matin, Dieu dit qu'il veut faire les choses de manière nouvelle et qu'il demande à chacun de nous de se réaligner face à sa personne. Comme a dit Blaise, nous ne savons pas exactement comment. Dans quoi il souhaite nous voir entrer. Mais il semble quand même que cela soit assez proche du modèle de la première église, dite apostolique. Mon but avec toute cette introduction est de nous défier concernant notre appel et notre destinée. Quand je parlais jeudi soir de quoi j'allais parler ce matin, j'ai dit qu'on allait parler de destinée. Et Mireille m'a dit, mais tu sais ce que ça veut dire le mot destinée? J'avais encore pas cherché la référence grecque, hébreu et tout ça. Et puis j'ai trouvé tellement super ce qu'elle m'a dit. Alors je vais demander à Mireille de venir et puis de vous le partager. Ce sera mieux. Que ça soit moi qui transmets.
Voilà. Alors, le mot destiné vient du mot grec
qui s'est dit Horizo, d'où est sorti le nom Horizon. Notre horizon. Qu'est-ce que l'horizon? Si vous êtes peintre, si vous faites des paysages, on a tendance à faire une ligne bien droite pour différencier le loin et le près. C'est une question de perspective. On le voit très bien, par exemple, quand on va à la mer. Vous pouvez regarder, vous voyez d'abord le sable, les vagues, peut-être un bateau, et puis tout au loin, vous voyez juste un trait comme ça, et après, vous voyez au loin. L'horizon n'est pas très loin, il est quand même loin, et en fait, c'est quand le ciel se rapproche de la terre. Donc, l'horizon, c'est cette ligne qui fait que le ciel se rapproche de la terre. Voilà.
Merci, j'ai trouvé ça vraiment très beau. La destinée, c'est quand le ciel se rapproche de la terre. Et c'est ce que nous avons vécu ce matin, dans la louange déjà. Le ciel vient nous rencontrer, le ciel vient nous parler, et le ciel va nous demander de nous réaligner avec sa façon de penser et ce qui vient de là-haut. Je vais vous lire Ephésiens 2:10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, c'est pas rien, riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Ça aussi, c'est une référence concernant la destinée. Quand Dieu nous a créés dans son amour, il a mis dans chacun de nous des dons, des capacités, des rêves. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous a créés ainsi, uniques. C'est pour pouvoir entrer dans notre destinée, répondre à notre appel. Un appel qui soit en fonction de qui nous sommes, selon notre mesure. Et ça, il l'a placé en nous. Je vais lire un autre texte, c'est la parabole des talents, dans Matthieu 25. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 talents ou 5 lingots d'or, à un autre 2 et à un troisième 1 seul, ceci en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis le maître s'en alla. Vous savez, Stéphane, il nous parle souvent de métrome. C'est un nom qu'il aime bien. Le métrome, c'est la métrone. Ah ouais, merci de me corriger. J'avais mal compris. C'est la capacité d'agir sur un territoire donné. Dieu, dans sa bonté, nous donne un, voire plusieurs dons pour bénir soit son prochain ou soit ses prochains. Il nous donne ce dont nous sommes capables de gérer. Dans le texte qu'on vient de lire, il y en a de ceux qui reçoivent 5 lingots d'or, un autre qui reçoit qu'un seul. Réjouissez-vous, car Dieu nous connaît. Il sait ce dont nous sommes capables de faire et il sait ce que nous sommes capables de gérer. Il se réjouit aussi de pouvoir nous le révéler. Donc il est important de comprendre qui nous sommes ou combien de lingots d'or Dieu nous confie. C'est-à-dire qu'il faut passer du temps dans sa présence pour pouvoir le comprendre. Dieu parle au travers de ce que nous aimons faire, ce que nous sommes capables de faire, ou dans les domaines où nous avons de la facilité. Il nous a créés. Il sait ce qu'il nous a donné, Dieu utilise souvent ce que nous sommes. Que cela soit pour le milieu professionnel ou que cela soit pour le service dans la communauté. Ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire, faites-le. Faites-le pour Dieu. Que cela soit pour le service pour Dieu ou que cela soit où Dieu vous a placé professionnellement. Je vous rappelle que dans l'Église primitive, tous les membres étaient appelés à grandir dans leurs dons, qu'ils soient jeunes, très jeunes, ou même très âgés. C'est pas pour une élite, c'est pas pour quelques-uns, c'est pour chacun d'entre nous. Nous sommes donc dans un temps, vous l'avez entendu, où Dieu veut nous réaligner, où Dieu veut que nous entrions dans notre appel et dans notre destinée. Et j'ai parlé de trois clés pour entrer dans cette destinée. Parce que vous allez me dire, mais je ne sais pas comment faire. La première des choses, c'est qu'il utilise qui nous sommes, ce que nous sommes et ce que nous aimons. La première des choses, c'est de ne pas se focaliser sur nos limites. Vous savez comment on est, hein? Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas bonne, je ne serai pas capable, je n'arriverai pas, je ne comprends pas. On est souvent comme ça quand même. Hein? Donc nous sommes créés limités. Mais nous avons un grand Dieu qui, lui, n'a pas de limite. Alors Lionel, alors non, ce n'est pas un nouveau toc que j'ai. Hein? Vous allez me voir faire cela plusieurs fois. Merci les jeunes là-bas. Tu peux envoyer la vidéo. Ça donne le vertige, hein? Quand nous pensons que Dieu a créé tout cela, quand nous pensons qu'il est au-delà de tout ça, comment nous pouvons encore avoir peur et douter que lui, il sait? Il sait ce qu'il va faire. Il sait où il va nous emmener. Ça nous pose des questions, hein. À chaque fois que je le... J'aimais bien montrer ce film à nos élèves. Tu te rappelles, Anthony, hein? Ça nous ramène à notre mesure, hein. Un petit point sur cette terre, perdue dans le macrocosmos, dans l'univers. Et si vous regardez votre peau, vous savez que dans l'autre sens, c'est la même chose. C'est juste incroyable. Et puis, ça nous ramène, comme je disais, à notre mesure. Ça montre qu'il y a encore bien des mystères, bien des choses que nous ne savons pas. Et il est important d'accepter cela. Néhémie 9, verset 6, résume cela. C'est toi, Éternel, toi qui es l'unique. Tu as fait le ciel, les cieux les plus élevés et tous les astres qui s'y trouvent. Tu as créé la terre et tout ce qui est au-dessus, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à tous les êtres et l'armée céleste se prosterne devant toi. Et ce matin, avec la louange, nous avons essayé d'entrer dans la démarche aussi, de se prosterner devant Dieu. Il n'y a que ça à faire devant l'immensité de qui est Dieu. Se prosterner et d'admettre que nous sommes parfois bien orgueilleux pour dire à Dieu comment il doit faire. Donc, Dieu sait de quoi nous sommes formés. Notre intelligence humaine a des limites, pas celles de Dieu. Nous pouvons lui faire confiance et nous appuyer sur lui concernant nos choix de vie. La deuxième clé pour entrer dans notre destinée, est celle de réaliser la puissance que nous avons en Dieu. Et là, je vais vous lire un autre texte, c'est dans Éphésiens 1, 18 à 23, et ça aussi, c'est extrêmement puissant si on arrive à l'intégrer dans nos cœurs. C'est Paul qui parle. Je lui demande d'ouvrir, donc il dit de Dieu, je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi, vous pouvez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. C'est une espérance d'être appelé. Vous vous rendez compte ? Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. Sa puissance et sa force. Dieu les a montrés dans le Christ. Quand il l'a réveillé de la mort, c'est-à-dire ressuscité, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Ainsi le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Ah, si nous pouvions graver cette promesse dans nos cœurs à chaque fois que nous nous trouvons devant des difficultés et des circonstances qui sont compliquées. Il faut que nous apprenions à ne pas nous focaliser sur nous et nos problèmes et nos embûches, mais sur la puissance extraordinaire de Dieu. Il faut qu'on lui demande qu'il ouvre pour nous les yeux de notre intelligence afin de voir comme Jésus voit les circonstances. Lionel, tu peux envoyer l'image suivante. Trop chou, hein? Il est mignon comme tout, hein? Ouais, mais nous ne devons pas rester à ce stade de petit chaton tout mignon. Nous ne devons pas nous regarder comme ce petit chat. Parce que Dieu nous demande d'être fort et d'être courageux. Tu mets l'image suivante? Non, c'est pas celle-là. C'est un autre un petit animal, ça c'est pour la suite. Voilà, ça c'est moins mignon, hein? C'est une fourmi. Mais vous savez qu'elle est capable de transporter, de porter 30 fois son poids. L'autre image, alors voilà, on voit une petite fourmi, non seulement elle porte une grosse feuille, mais elle porte aussi une copine. Donc voyez, il vaut mieux être ça. Comme quoi, quand Jésus dit que nous pouvons, avec un peu de foi, un tout petit peu de foi, déplacer des montagnes, cela reste vérifiable, toute proportion gardée, bien sûr, dans la création. Je rappelle encore une fois, tous les membres de tous les âges sont concernés par l'appel, par un ministère ou par un service. Si nous entrons dans cette façon de vivre, ça veut dire qu'ensemble, pas simplement une fourmi, mais toutes les fourmis que nous pouvons représenter, nous pouvons déplacer des montagnes. Des montagnes. J'ai vu une vidéo à ce sujet, mais je trouvais que ça faisait trop long de vous montrer cela. C'était une bande de fourmis qui essayait de déplacer un ver de terre mort pour le faire entrer dans la fourmilière. Et je vous assure qu'elles y sont arrivées. C'était vraiment intéressant. Ça, c'est une image pour nous qu'il nous faut garder. Tu veux bien me remettre le petit chaton ? Voilà. Donc, ce petit chaton, il est mignon. Mais ce que nous sommes appelés à devenir, waouh ! Nous sommes appelés à avoir un cœur de lion. Nous devons cesser de nous contenter du lait. C'est chouette, un chaton, il boit du lait. Mais nous sommes appelés à grandir et à manger une nourriture solide. Vous trouverez ça dans 1 Corinthiens. Nous devons avoir un cœur de lion, rempli de la force et de la puissance de Christ. Que Dieu nous donne ce cœur de lion. La troisième clé, c'est que nous sommes connus de Dieu. Jérémie 1, 5. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. Ça, c'est ce que Jérémie a reçu comme appel sur sa vie. Maintenant, on va prendre un autre texte. Le psaume 139, versets 13 à 16, et David aussi, lui, il avait compris quelque chose au niveau de sa destinée. À partir du 13, « Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. » Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés sans qu'aucun d'eux n'existait encore. Ça, c'est une révélation profonde que David a reçue. Il était appelé, destiné. Et chacun de nous, nous pouvons la prendre pour soi. Je ne vais pas creuser dans le thème de la prédestination. Il y a ceux qui sont contre, de ceux qui sont pour, d'autres encore qui sont milieu. Pour moi, je choisis d'accepter les mystères de Dieu et de ne pas tout comprendre. Vous rappelez, on est limité, nous. Je choisis de faire confiance. Lui, notre Père, il sait qui nous sommes. Les dons que j'ai ou que je choisis de développer, parce que là, on a encore le libre arbitre, le chemin que je vais prendre ou pas. Toute une question de choix. Nous sommes libres. Libres d'entrer dans notre destinée ou pas. Dieu dit qu'il a des projets de vie et de bonheur. Vous trouverez ça dans Jérémie 29, 11. Ces promesses sont pour nous dans la mesure où nous faisons confiance à Dieu pour les choix de notre vie. Pour mieux illustrer ces trois clés, je vais prendre une histoire, je vais la faire courte, le plus courte possible, avec un personnage biblique qui a réussi à saisir sa destinée à un moment où il n'était pas du tout connu. Nous allons entrer dans la histoire la plus connue concernant toutes les écoles du dimanche. C'est l'histoire de David et de Goliath. Et puis, on va se pencher surtout sur les réactions de David dans cette histoire. Cette histoire se trouve dans 1 Samuel 17. Le contexte. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière et ils se rassemblèrent à Soco en Juda et dressèrent leur camp. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Goliath, tu peux m'envoyer l'image de Goliath ? Il y en avait plusieurs. Je ne sais pas si vous voyez, hein, il est grand, mais il est surtout moqueur. Pendant 40 jours, il a défié l'armée d'Israël. Et on voit derrière toute son armée de Philistins, eh bien, ils se réjouissent parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont gagner la bataille. Alors, un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze, pesant 60 kilos. Un petit David en face, on dit que c'est un jeune homme, hein. Peut-être qu'il faisait ce poids-là, hein, le poids de toute l'armure de Goliath. Goliath se compara face aux troupes israélites et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat ? Moi, je suis le Philistin et vous, vous êtes les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte au combat singulier. » C'est pour ça que tout le monde riait. Tout le monde savait qu'on ne trouverait personne, hein, pour défier ce grand géant. Le contrat de Goliath, c'est « S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. » La réaction de Saül et de son armée, c'est que tout le monde a été démoralisé et une grande peur s'empara de chacun. Entrée en scène de David. Le père de David, Isaïe, demande à celui-ci d'aller trouver ses frères qui sont dans l'armée de Saül. Il lui dit « Prends 10 fromages, tu les donneras au chef de leurs milliers, tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en rapporteras de leur part un gage. Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du chêne face aux Philistins. » Pourquoi le père de David demande que celui-ci lui ramène un gage ? Je me suis posé la question. Il semble que la relation de père et fils n'était pas très au beau fixe. On dirait même qu'il soupçonnait David de détourner la marchandise et de ne pas faire ce qu'on attendait de lui. C'est curieux, n'est-ce pas ? David sur le lieu de bataille. David déposa son chargement, il confia au gardien des bagages, puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander des nouvelles de ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, sortit des rangs et lança son défi habituel. David l'entendit. Ça faisait 40 jours qu'il sortait pour défier l'armée d'Israël. À la vue de cet homme, comme chaque jour, les soldats d'Israël s'enfuient, terrorisés. L'avez-vous vu s'avancer contre nous ? Dit l'un d'eux. Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra des grandes richesses de la part du roi. Elle lui donnera en plus sa propre fille en mariage. Et ça, qui est très intéressant, et exonérera toute sa famille d'impôts. Pas mal, hein ? Mais d'abord, il faut s'attaquer à Goliath. Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lèvera le peuple d'Israël, qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée ? Demanda David. Qu'est-ce donc que cet incirconcis, je vais y arriver, de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant. David ne voit pas Goliath comme les autres. Pour lui, ce n'est pas un géant terrifiant. C'est un incirconcis de Philistin qui ose insulter le Dieu vivant. David utilise là la première clé pour rentrer dans son appel. David ne regarde pas ses limites. Son identité est bien en place. Il est le fils du Dieu Très-Haut. Il savait qu'il serait appelé roi, parce qu'au verset 16, non, au chapitre 16 de 1 Samuel, il a été oint par Samuel. Donc, David ne voit pas Goliath comme Saül et toute son armée qui tremble de peur. Dieu lui a ouvert l'intelligence des yeux et l'intelligence du cœur. Comme David, tâchons d'avoir du recul en Dieu pour évaluer les situations. Si je mets des lunettes négatives pour regarder les circonstances difficiles, je vais avoir des réactions ou des comportements en fonction de ma manière de voir. Si nous ne regardons pas qui est Dieu, nous pouvons passer à côté des désirs et des rêves qui seraient pour notre vie. Si nos limites physiques ne peuvent pas être dépassées, nos limites spirituelles avec Dieu le peuvent. On va regarder un petit peu le contexte familial de David. Je reprends mon texte. On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit « Qu'est-ce que tu viens faire ici ? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe ? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. » Nous avons déjà vu dans les versets précédents que le père de David était méfiant envers lui. Et maintenant, nous voyons que son frère est très en colère et qu'il a un jugement, mais vraiment très sévère. On ne peut pas dire que David avait un contexte familial extrêmement chaleureux. Peut-être que la réaction d'Eliab est due, parce qu'on voit dans 1 Samuel 16 que David a été choisi, c'est le dernier de la famille d'Isaïe, c'est-à-dire ils sont 8 frères, et le premier s'appelait Eliab, il était beau, il présentait bien, il était fort, costaud. Ben Samuel, lui, il l'aurait choisi comme roi, moi aussi certainement. Eh bien non, Dieu il s'est choisi un autre roi. Et il s'est choisi David. Et peut-être qu'Eliab était encore sous ce coup-là, et puis qu'il était jaloux, tout simplement, et encore en colère, que ce n'est pas lui qui a été choisi par Dieu. Là aussi, David utilise la première clé, celle de ne pas regarder ses limites. Mais encore plus, il l'utilise pour ne pas se laisser limiter par les autres. Parce que quand on entend les voix de ceux qui sont dans notre famille nous dire qu'on ne va pas être capable, c'est parfois dur de se faire confiance et d'entrer dans son appel. Voici comment David répond à Eliab. Hé, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Est-ce que j'ai plus le droit de parler maintenant ? Puis il fait une chose extraordinaire, il lui tourne le dos. David n'argumente pas, il ne défend pas, il poursuit sa route. Faisons comme lui. Dans notre appel, sur notre route, on aura souvent des gens qui vont nous défier puis vont nous dire, non seulement notre propre cœur nous défie en nous disant qu'on n'est pas capable, mais souvent on aura des gens qui nous diront, oh, voilà, je ne suis pas sûr que tu sois appelé à ça. Qu'est-ce que je vais raccourcir ? David est présenté devant Saül. Et il lui dit : ne perds pas courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je combattrai. » Et Saül lui répondit, « Mais tu ne peux pas lutter contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin. » Alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David lui répond, « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père, et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si loup fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux. Car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » David se saisit de la deuxième clé pour entrer dans sa destinée. Il sait la puissance qu'il a en Dieu. Il avait déjà traversé des situations compliquées. Il avait déjà combattu le lion et l'ours. Donc le Philistin, c'était juste encore un petit peu plus difficile, mais il savait qu'il pouvait compter sur son Dieu. Si on continue dans le texte, je vais sauter l'épisode où David enfile l'armure de Saül. On sait que ça ne va pas. Et bien, on sait surtout que David comprend très vite qu'il doit utiliser ses propres armes, celles qu'il connaît. Et pas non, et pas l'équipement d'un autre. Dieu veut nous utiliser dans les difficultés avec ce que nous connaissons et utilisons facilement. Lui, il va rajouter le surnaturel et ce que nous ne pouvons pas faire. La confrontation de David contre Goliath. Goliath examina, tu peux mettre l'autre image, la deuxième image de Goliath où on voit David. Donc vous voyez ce grand géant, et puis là j'aime bien cette image parce qu'on voit que David, il est gringalet, mais quand même maus costaud, hein, il a bien des muscles, et on voit surtout qu'il n'a absolument pas peur. Alors, est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bateau, avec un bâton, pardon, et pas un bateau? Approche un peu pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Non seulement le père de David, le frère de David, mais là vous avez un ennemi. Beaucoup, beaucoup de difficultés pour rentrer dans son appel. Et ça, ce n'est pas le moindre des ennemis qui va vous essayer de vous détourner de ce que Dieu aimerait que vous fassiez. David se saisit de la deuxième clé, celle de la puissance de Dieu, et il dit à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel, etc. etc. » Je vous fais grâce d'une petite partie. David, il est déterminé. Il sait avec qui il marche. Il vient dans le combat au nom de l'Éternel des armées. Utilisez ce nom quand vous êtes dans des circonstances difficiles. Utilisez le nom de Jésus. N'allez pas avec votre nom propre. Et le but de David dans cette histoire, c'est que toute la terre sache qu'Israël a un Dieu puissant. Nous avons été choisis dès avant notre naissance pour vaincre des situations compliquées. La puissance de Dieu nous est accessible grâce au sacrifice de Jésus. En tant que chrétien, elle est à notre portée. Et je vais terminer avec la troisième clé. Est-ce que vous vous rappelez laquelle c'est ? Nous sommes connus de Dieu. Quand David arrive sur le lieu de bataille en présence de Saül, ben il est connu de personne. C'est le dernier fils méprisé d'Isaïe dont personne dans sa famille ne fait grand cas. David a certainement développé une intimité avec Dieu durant les grandes heures de solitude comme berger prenant soin de son troupeau. Il suffit de lire le psaume 139 pour voir combien il a compris qui était son Dieu. Et Dieu l'avait préparé pour un temps comme celui-ci, pour être une solution pour Saül et son armée qui étaient dans une impasse. En acceptant le défi que cela représentait de combattre Goliath, David est entré de plein pied dans sa destinée. Est-ce que David n'a pas eu peur? Bien sûr que David a eu peur. Moi, je ne vous parle que des trucs positifs. Bien sûr que David a dû se poser des questions. Elles ne sont pas dans ce texte. Parce que je crois que Dieu y veut nous apprendre à détourner et à nos yeux, pas aux circonstances qui sont difficiles, mais sur lui. Conclusion. Peut-être que certains d'entre nous avons commencé à marcher dans notre destinée. Peut-être d'autres, pas du tout. C'est un langage étrange. Mais si vous vous êtes arrêté à cause d'une circonstance difficile, j'aimerais vous encourager à vous lever, à vous lever, à vous lever. Que nous sommes appelés à être rois ou devenir moniteurs de l'école du dimanche, nous devons accepter et croire que Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. Nous devons nous lever, faire des choix et entrer dans celle-ci avec détermination. La première des clés, ne pas se focaliser sur nos limites. La deuxième, réaliser la puissance que nous avons en Dieu. Et la troisième, ne pas oublier que nous sommes connus de Dieu et que lui fera le reste si nous, nous en sommes pas capables. Amen.